Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast NBA Dunk Hebdo, un épisode demi-saison puisqu'on va parler du All-Star Game aujourd'hui, un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, en bien, en moins bien également, certains sont fans, d'autres moins en tout cas, ça ne reste pas moins un rendez-vous immanquable, ne serait-ce que médiatiquement, de cette saison NBA. Et justement, il y a plusieurs débats autour du All-Star Game qu'on a décidé d'aborder ensemble pour en parler avec moi. Tout d'abord, celui qui enregistre avec nous avec un peu de décalage horaire, mais il est toujours fidèle au poste, c'est Ben. Comment ça va, Ben ?
Ça va très bien, Adrien. Tu sais, petite anecdote, parfois c'est bien d'habiter dans ce genre de pays tel que la Corée du Sud. 20 minutes avant qu'on enregistre, je remarque que mes écouteurs ne marchent plus. J'aurais été dans ma petite meuse profonde, j'étais mort, hein, soyons honnêtes. Et là, je passe dans mon petit 7-Eleven, pour ceux qui connaissent, et boum, je m'achète des écouteurs. Donc salut à tous et vive les petites supérettes ouvertes 24h sur 24.
Oui, parce qu'il est quelle heure du coup, pour situer à peu près
1h53 au moment où je suis allé dans la supérette, peut-être il devait être minuit 47, un truc comme ça, très précis. Hein.
Très précis et très pratique pour le coup. Et le troisième larron du jour, comme on dit, il a un joueur souvent cité en ce moment par les snobés, notamment du All-Star Game, un certain James Harden qui joue pour les Sixers de notre cher Amine. Comment ça va, Amine ?
Ça va très bien. Moi, j'ai pas d'aussi belle anecdote que vient de nous faire Ben, mais ça va très bien. On va juste aller faire le piquet de grève pour James et voilà.
Et ben justement, avant de voir les grèves, les mouvements, les contestations que nous avons à faire autour du All-Star Game, avant d'en parler, le rappel protocolaire, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également nous mettre une note, ça nous fait toujours plaisir. Sur YouTube également, pour ceux qui aiment voir notre trône et voir parfois avoir le podcast en avant-première également. Et puis, comme d'habitude, sur Twitter. Et on va marquer la pause avant de se retrouver pour parler du NBA All-Star Game. Alors, comme je le disais en intro, messieurs, le All-Star Game, c'est un rendez-vous immanquable à la mi-saison NBA. C'est un des matchs, si ce n'est le match le plus regardé de la saison chaque année, un match diffusé sur toutes les chaînes à l'international et surtout une sélection de joueurs, une sélection qui fait beaucoup parler. Et la première question qu'on a décidé de se poser ensemble, c'est celle de ces fameux critères de sélection, parce que ce n'est pas très clair. C'est quoi un All-Star, Amine ?
Ben justement, on ne sait pas. On ne sait pas du tout, puisque on a le prisme cette année, un prisme magnifique entre LeBron James, le joueur hyper fort dans une équipe qui ne fait pas grand chose, et de l'autre côté, Jrue Holiday, un mec qui n'est normalement pas All-Star et qui est dans une des meilleures équipes de la ligue. Donc, quel est le critère qui réunit les deux finalement ? Il y en a zéro. C'est ça le problème en fait. Pour moi, il n'y a aucun scandale. Le seul problème, c'est qu'il y a zéro critère et qu'on fait un peu ce qu'on veut. Si on pouvait avoir des critères, peut-être qu'on pourrait comprendre un peu plus l'objectif de ces All-Stars. Seulement, je pense que c'est compliqué parce qu'on a envie, justement, en NBA, de faire comme ça pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut et pouvoir mettre, justement, et LeBron James et Jrue Holiday dans le même All-Star Game. Quoi.
Oui, non, mais c'est ça, c'est la grande question de est-ce que ce sont les meilleurs joueurs dans l'absolu, un peu à la manière de notre DH20, pour faire de l'autoréférence chez Dunk Hebdo, est-ce que ce sont les meilleurs joueurs de la saison, à la mi-saison en cours ? On peut citer aussi le cas de Lauri Markkanen, je pense que c'est un nom qu'on risque de citer plusieurs fois dans ce podcast. Est-ce que, voilà, que fait-on ? Et tout le monde a un peu sa définition, Ben.
Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous, et ce qui rend la définition, la tentative de définition encore plus difficile, c'est qu'on a plusieurs composantes. On a les joueurs, les coachs qui décident du banc, on a les fans, on a les médias, donc... Autant, je pense que, notamment pour les médias, je crois comprendre la manière dont ils votent, et c'est pas sans amener certains problèmes dont on parlera. Les fans, je pense aussi réussir à comprendre, il y a une espèce de mélange entre spectacularité, ce qui fait que certains profils sont un peu desservis, et aussi le côté popularité et niveau du joueur quand même. Parce que je suis pas tellement d'accord. Quand on regarde les évolutions de vote, on voit que certains joueurs, et quand ils baissent en niveau et en popularité, bah, ils vont baisser dans le, au niveau des votes des fans. Et puis les joueurs où parfois c'est un peu folklorique, soyons honnêtes, et les coachs qui se rapprochent grandement des joueurs. Moi, je trouve que, on en parlera aussi pendant l'épisode, le côté un peu vieux sage des coachs, quand on voit certains choix, je pense qu'il est vraiment à remettre en considération.
Ouais, parce que se pose l'intérêt de chaque votant. On sait que ça, chez les fans, ça fait, on l'a bien vu et on vient d'en parler dans l'intro, ça fait beaucoup parler. Et il y a un certain nombre de votes, alors il y a plusieurs rapports. C'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, la fanbase des Warriors aime beaucoup ses joueurs, Klay Thompson est très très haut, là où il est assez bas chez les joueurs et du côté des médias. C'est la même chose pour pas mal de joueurs des Warriors, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est pas pour pointer une fanbase, mais souvent chez les fans, voilà, le joueur préféré, on soutient les joueurs de son équipe, et c'est à peu près normal. Du côté des joueurs et des coachs, c'est à se demander si on est vraiment impliqué, hein, notamment cette année, j'étais allé voir la stat, parmi donc les joueurs qui ont fait plus de la moitié des votes de All-Star chez les joueurs NBA, ils ne sont que trois. Ils s'appellent Jokic, Giannis et LeBron. Alors après, on peut déterminer s'il le mérite ou non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a que trois joueurs qui sont dans plus de la moitié. Ça veut dire que Jokic est par exemple uniquement dans, entre guillemets, 58,7% des bulletins. C'est-à-dire qu'il y a, plus, il y a presque 40%, enfin, il y a un peu plus de 40% des joueurs NBA qui considèrent que Jokic ne fait pas partie des starters All-Star cette année. Et ce n'est pas pour parler de la course au MVP, mais on voit bien que Jokic est quand même, je pense, un All-Star méritant cette année. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de qui a vraiment envie de voter du côté, en tout cas, des joueurs et des coachs qui ont une part importante, hein, mine de rien, dans tous ces votes, quoi.
Ouais, clairement. Tu parles de Jokic en plus de ce que tu as dit, c'est-à-dire en plus de son niveau. Il y a quasi personne en forward à l'ouest, donc c'est tellement évident que normalement ce chiffre ça devrait être 100%. Ça n'a aucun sens que ce n'est pas 100%. Il faut racler les fonds de tiroir pour trouver des forwards, donc Jokic il devrait être à 100% et c'est pas le cas. Ça prouve qu'il y a un problème, ça prouve qu'il y a d'autres intérêts que le vote objectif total, quoi.
C'est ça, parce qu'on parlait, je parlais d'intérêt. Excuse-moi Ben, tu vas pouvoir reprendre la parole après, mais l'intérêt que ont les joueurs de voter pour les joueurs de leur équipe, mais c'est aussi le cas pour des joueurs des Jazz, parce que tu vois, tu parles des forwards, et j'ai vu un article assez rigolo, étonnant, on va dire, qui parle notamment de Markkanen, qui a été donc il y a 73 votes parmi les joueurs, donc qui est plutôt méritant, etc. Mais on retrouve aussi d'autres joueurs du Jazz avec des votes. Il y a deux votes pour Walker Kessler, je vois un vote pour Jared Vanderbilt, je les ai sous les yeux, un vote pour Rudy Gay, deux votes pour Azubuike, un vote pour Michael Porter qui a un two-way, hein, du côté du Jazz, hein, pour ceux qui ne suivent pas. Donc voilà, par exemple, si tu veux que Markkanen soit All-Star, bon, bah, sur le reste du front court, tu vas mettre les autres joueurs de ton équipe ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi un biais de vouloir mettre en avant un joueur parmi tant d'autres et du coup de ne pas voter pour les autres. Je sais pas, je le lance un peu en l'air.
Non mais c'est vrai, bah c'est simple, Adrien. Il y a eu 360. Alors, je cherchais désespérément. Ça, c'est un peu marrant parce que pendant la préparation du podcast, on s'appelait et puis je vous ai dit, bon bah les gars, quand je regarde le détail, je vois 220 votes pour Giannis, 220 votes pour Jokic. C'est peut-être le total. Non, très loin. Hein, 375 le total. Donc, comme tu l'as dit, il y a bien, ils sont à peine au-dessus des 50%. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu 375 du coup joueurs habilités à voter et il y a eu 330 joueurs qui ont reçu des votes quand même. Faut vous dire que c'est scandaleux.
En tant que starter en plus.
En tant que starter, hein. Donc bon, passons. Et quand on regarde, et c'est vrai, il y a un paquet de manières différentes de voter selon les joueurs. Il y avait un article assez intéressant sur Bleacher Report de Sean Hiking. Je pense pas que depuis 2021, l'article date d'il y a deux ans, ça a changé fondamentalement la manière de voter. Or, t'as ceux tels Torian Prince qui te disent très clairement, sans se cacher, c'est quelqu'un qui le fait pour moi tous les ans. Donc bon, là, déjà, on se demande la procuration. Est-ce que c'est vraiment le,
est-ce que et c'est qui vraiment est ce quelqu'un?
Qui est ce quelqu'un, tu vois? Parce que si c'est l'agent, ça ramène d'autres questions, hein. Passons. Il y en a qui disent, ah bah, moi, en gros, c'est Tyrese Maxey qui disait, bah, moi, je vote pour les mecs qui sont dans mon équipe, en fait. Parce que, en gros, ce qui devrait être interdit en soi, hein, parce que tu devrais pas avoir le droit de voter pour les joueurs dans ton équipe. T'as les mecs à la John Wall, en gros, moi, je vote pour les mecs qui m'ont le plus impressionné dans les face-à-face. T'as Damien Lillard qui disait, lui, de son côté, bah non, moi, j'essaye vraiment d'être le plus transparent possible, et même si c'est pour voter, bah, face pour des mecs qui peut-être pourraient me voler ma place, je vais le faire. Enfin, t'as un paquet de motivations différentes, et ce qui fait que, oui, et les joueurs ont leur part de responsabilité. Après, Adrien, je trouve que aucune des composantes qui est parfaite, en fait, moi, je trouve, tu vois. Les médias, j'ai deux problèmes. premier problème, j'aime pas le fait qu'ils votent à la fois pour les All-NBA où ils ont tout pouvoir et pour le All-Star Game. Deuxième problème, en fait, pour moi, ils votent pour les All-NBA quand ils font le All-Star Game. Globalement, au niveau des critères, il n'y a aucune différence. Quand j'écoute, je lis les justifications, ils votent pour les All-NBA en février. Sauf que c'est pas ça, en fait, le All-Star Game, je trouve. Donc, personne n'est parfait dans cette histoire.
Ouais, c'est la question de cette première partie. Qu'est-ce que c'est que le All-Star Game, finalement? C'est pas ça. Ouais, voilà, c'est pas ça. Ça dépend pour qui. Manifestement, oui, voilà, comme tu dis, pour les médias, on a l'impression que c'est leur DH20. C'est un peu comme nous, sauf qu'à la mi-saison, ils s'amusent à faire l'exercice une nouvelle fois en prenant les meilleurs joueurs. Mais on s'en rend bien compte, et Amine, tu le disais dans l'intro, que tu as des joueurs Holiday, Lauri Markkanen qu'on a cité, enfin, des joueurs qui font. Voilà, qui sont dans des équipes qui performent ou qui surperforment, parce que finalement, Markkanen, quand on regarde le classement du Jazz, maintenant arrivé à cette mi-saison, ils sont un peu, entre guillemets, rentrés dans le rang, même s'ils sont à un meilleur bilan que ce qu'on pouvait attendre probablement avant la saison, mais il y a une forme de récompense, donc Lauri Markkanen qui a été voté quatrième chez les joueurs, donc je parle du front de court de l'Ouest évidemment, mais du coup qui est bien récompensé, donc t'as l'impression qu'il y a une espèce de dichotomie entre ce que veulent les fans, ce que veulent les médias, ce que veulent les joueurs. Est-ce qu'on a besoin de trancher, Amine, c'est cette question que j'ai envie de te poser là maintenant, est-ce qu'on a besoin de trancher sur qui a raison, ou est-ce que c'est pas finalement mieux comme ça, que chacun fasse un peu à sa sauce, quoi?
Alors, moi je pense que d'un point de vue global, sans parler de basket, l'objectivité c'est une vaste fumisterie. Ça n'existe pas. Et du coup, à partir de ce moment-là, on ne peut pas reprocher tout et n'importe quoi à tout le monde. C'est justement ce qui se passe parce que tout le monde est subjectif. Mais en vérité, pour moi, il n'y a pas de scandale là sur les votes. C'est-à-dire que tu peux, à partir du moment où tu peux les expliquer d'une certaine manière, il n'y en a pas. Et pourtant, moi, je pense au plus profond de moi-même que James Harden aurait dû l'être, par exemple. Mais justement, est-ce que je suis objectif sur le sujet aussi? Et du coup, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est pour ça que moi, je pense que mettre des critères clairs, c'est pas l'objectif de mieux choisir les All-Stars. C'est qu'on se plaigne moins, finalement. Parce que aujourd'hui, personne n'est content. Parce que toutes les fanbases vont se plaindre de tout et n'importe quoi. Parce que leur joueur n'y est pas, parce que leur joueur y est, ou quoi que ce soit. Mais en vérité, il n'y a pas de critères clairs. Alors, il y a aussi Jaren Jackson Jr. qui est beaucoup sorti dans les discussions parce qu'il y a autant de minutes que Anthony Davis. Ça peut se comprendre, tout peut s'expliquer. Il y a le bilan de Memphis, c'est pas le même que celui des Lakers aussi. Donc, tu peux l'expliquer d'une certaine manière. Là, le seul problème que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de cohérence entre les différents choix. Et du coup, tu ouvres encore plus la porte à dire « mais c'est n'importe quoi ». Parce qu'effectivement, si des joueurs mal classés mais bons sont au All-Star Game et qu'en revanche, tu as des joueurs moins bons mais très bien classés qui y sont, c'est quoi le critère principal pour être All-Star? Moi, je pense qu'il faut prendre le All-Star Game pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est pas le Super Bowl en NFL, c'est juste une grande fête du basket. Ça n'a pas vocation à être plus. Parfois, c'est une plus belle fête que d'autres, mais c'est pas plus que ça, finalement.
Mais tu soulignes le point important de la pondération des différents critères, même si, une nouvelle fois, c'est subjectif à chacun. Mais si on fait une grande fête du basket, les gens vont te dire « oui, mais du coup, tu vas défavoriser les joueurs plus défensifs, des joueurs Holiday, tu l'as cité, on pense à Rudy Gobert il y a quelques temps, etc., qui sont moins spectaculaires. » Il était critiqué, d'ailleurs, Rudy Gobert, pour sa sélection. On disait « qu'est-ce qu'il fait un All-Star Game ?» C'est pas amusant de le voir. Et en même temps, parfois, on en parlait d'ailleurs entre nous, je crois que c'est toi, Amine, qui le disais quand on préparait ce podcast, finalement, les All-Star Games, des fois, sont les plus intéressants quand ça commence à défendre. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi envie d'avoir ces joueurs? Est-ce que, du coup, la question, Ben, du coup, je vais te relancer là-dessus, c'est pas un peu, bon, c'est la question éternelle qu'on se pose chaque année quand on fait le DH20, de au moins mettre certains critères sur le papier, au moins c'est certain, tout le monde parle de la même chose, mais après, laisser un peu d'interprétation, ce qui arrive forcément, comme le disait Amine.
Mais moi, en fait, j'ai l'impression que cette question, il faut la diviser en deux. Il y a la question des titulaires et la question des remplaçants. Parce qu'en soi, la formule pour les titulaires, moi, je vous avoue qu'elle me dérange pas de ouf. 50% pour les fans, 25% pour les joueurs, 25% pour les médias. Je trouve que on peut discuter sur certains points, par exemple, est-ce que Embiid aurait dû être titulaire, etc. Mais en soi, je trouve que la pondération est assez bien réfléchie. Moi, et là où, du coup, l'intérêt peut-être de mettre des critères aurait du sens, c'est sur les coachs en fait, qui de un ont un pouvoir total sur les remplaçants, première chose. Deuxième chose, ne rendent pas leur choix public. Bon, ça peut s'expliquer sur certains points, mais le fait est qu'on donne ce pouvoir totalement disproportionné à des coachs qui, ça a été dit pendant la semaine, notamment sur Twitter par Maud Akil, qui travaillait pour The Athletic, maintenant pour Bleacher Report de tête. Les coachs, quand tu es dans un coaching staff, ils prennent 5 minutes pour le faire. Donc, en fait, c'est à eux qu'il faudrait imposer peut-être plus des critères. Moi, je trouve que c'est vraiment là la faiblesse du All-Star Game. Et c'est très souvent sur ces remplaçants que se pose la plupart des débats. Alors, oui, ça se pose parce que c'est annoncé en deux temps. Donc, c'est vraiment sur eux que se concentre l'attention. Mais c'est peut-être là où il y a vraiment une faiblesse, je trouve, de donner ce pouvoir totalement disproportionné à des coachs. Surtout en plus, il y a la question des positions. J'ai dit beaucoup de choses, mais ils sont censés donner deux guards, trois mecs sur le front court et deux spots un peu wild card où tu peux faire ce que tu veux. Mais pourquoi tu donnes cette division-là qui, encore une fois, va renforcer le front court qui a déjà trois joueurs de base, donc tu en donnes 6 contre 4 de base. Est-ce que c'est pas totalement... c'est pas donner trop d'avantages au front court? Moi, c'est vraiment sur les remplaçants que je pense qu'il faut se concentrer dans un premier temps.
Et en plus, il y a une nuance, c'est pas très clair, leur guard front court, parce qu'ils disent aussi que si certains joueurs bénéficient plus à une autre position ou à la team All-Star, alors on peut considérer qu'ils sont à une autre position.
Enfin,
oui, non, mais c'est déjà pas très clair. Mais je pense que t'offres la transition la plus évidente vers la suite de notre podcast, puisque effectivement, les remplaçants, c'est ça qui fait le plus parler, parce que bon, les titulaires, comme tu disais, Embiid n'est pas titulaire, mais il sera quand même All-Star. Et la question, c'est de ceux qui ne sont pas All-Star, et c'est ceux qui fait le plus débat, ceux qui ratent, entre guillemets, la sélection All-Star Game. Et pourquoi ça fait autant parler? Bon, il y a certes le prestige de l'année de juste être All-Star, d'être affiché, mais pas seulement, ça a un impact d'être ou non All-Star dans une carrière NBA, c'est de ça dont on voulait également parler. Et il y a notamment l'impact, je sais pas par où vous voulez commencer, mais... Amine, j'ai envie de te lancer sur l'impact premier, c'est celui de la carrière, de la legacy, comme on dit. À la fin, quand on revient sur la carrière de certains anciens joueurs, eh bien, une des premières lignes qu'on lit, c'est « 9 times NBA All-Star ». Et si tu en as moins, eh ben, forcément, ça affaiblit ton CV.
C'est ça. Je pense que, justement, c'est un peu le côté, comme tu l'as dit, « 9 times »,« first time ». C'est-à-dire, s'il y a écrit « une fois All-Star », il y a des chances que ce soit la récompense de fin de carrière, soit aussi en début de carrière, tu étais trop fort et on t'a mis All-Star assez rapidement, mais ça n'a pas suivi. Donc, c'est plus le nombre de fois où tu as été All-Star. Et effectivement, quand tu commences à avoir été 3-4 fois All-Star dans la Legacy, c'est hyper important en fait. Tu sais que, et pourtant, des fois, c'est pas forcément pour. À certaines époques, il y a eu des postes où il y avait moins de joueurs forts et tout, et du coup, ça a mené à certaines choses ou à des bilans collectifs des fois qui ont amené à certaines choses incroyables. On se rappelle de ces fameux Hawks qui avaient plus de All-Stars que de remplaçants. Du coup, oui, ça joue énormément sur la... Moi, je pense que c'est le principal effet, c'est sur la legacy, sur ce que ça t'apporte en termes de visibilité aussi, de ce que tu peux communiquer dessus, et pourquoi pas peut-être des discussions sur les contrats, mais je pense que c'est pas le principal truc. Mais et puis participer à la fête, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Je pense que c'est important pour les joueurs. On voit d'ailleurs l'importance que ça a, que c'est tout, c'est simple, c'est quand quelqu'un n'est pas sélectionné, justement. On voit, et même si généralement la première phrase qu'ils disent, bon, moi je m'en fous en fait de pas être All-Star. Mais, et on sait très bien que dès qu'il y a mais, c'est qu'il y a un problème.
Tout ce qui est avant ne compte pas.
Exactement. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, parfois c'est peut-être juste de l'ego, mais en tout cas, ça les embête vachement de ne pas être au All-Star Game.
Et puis, pour clore ce petit volet legacy, avant de parler des autres impacts, Ben, vous avez fait un podcast il y a quelques semaines, je crois que tu étais avec Madiane sur le Hall of Fame, et c'est vrai que si tu es All-Star ou pas All-Star, ça peut déterminer ton entrée dans le Hall of Fame, dans le panthéon du basket, donc c'est quand même quelque chose de relativement important pour une carrière.
J'invite les gens à aller le réécouter, mais on avait remarqué avec Madiane que au-delà des minutes et des points, le nombre de sélections All-Star Games, c'est un des critères premiers. Parce qu'en fait, effectivement, quand on fait rentrer des joueurs, quand tu calcules l'éligibilité All-Star Game qui se situe 5 ans après ta retraite, donc il y a un moment, sur un joueur qui a une longue carrière, le début de carrière, on va remonter à des choses qui sont passées à 15, 10, 15 ans. Il y a un moment où ce genre d'accolade, comme on dit, c'est un anglicisme qui est absolument atroce, je suis désolé, ce genre de récompense, permet de oui de situer un joueur. Et effectivement, quand on regarde le Hall of Fame, on remarque que, à l'exception d'un joueur dans les années 50, Larry Fust, tous les joueurs qui ont 7 sélections All-Star ou plus sont Hall of Fame. C'est-à-dire que, par exemple, alors oui, ça va relancer le débat Hall of Fame, Paul George est Hall of Famer, en fait. En gros, techniquement. C'est Paul George en a 8. Donc, Paul George devrait être Hall of Famer. Donc, c'est vraiment cette manière, comme tu l'as dit, de présenter le joueur qui se réduit souvent à bague ou pas, sélection All-Star Game, etc. Ça a un impact majeur sur la manière dont on se souvient de toi. Je suis désolé, moi, je connais pas toute l'histoire de la NBA sur les doigts, le bout des doigts. Quand je vois un mec qui, dans les années 70, je vois, ah ouais, il a été 3-4 fois All-Star, ce joueur-là, bah, même pour quelqu'un comme moi qui suis beaucoup la NBA, ça a un impact, faut être honnête.
Et d'ailleurs, la NBA s'en est rendue compte elle-même, puisque Amine, tu l'as évoqué un peu en toile de fond quand tu parlais de certains All-Stars qui faisaient un peu tâche. Pendant des années, il y avait, enfin tâche entre guillemets, mais la découpe des All-Stars, c'était deux guards, deux forwards, un pivot. C'est-à-dire qu'ils avaient, ils l'ont inclus, alors je ne sais plus c'était en quelle année, mais ils ont inclus, parce que ça remonte à il y a un petit moment, je n'ai plus les dates sous les yeux, mais ils ont inclus le critère du pivot, sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'avoir 2-3 pivots dans ton All-Star Game, eh ben, ça faisait que tu avais un pivot un peu moyen et qu'il manquait un autre joueur de front de courte, on va dire un poste 3 ou 4 dans la liste. Donc la NBA elle-même se rend bien compte que ça a un impact et essaye de le corriger petit à petit, même si ce n'est pas aussi évident, mais effectivement la non-sélection joue pour les carrières, la perception des carrières des joueurs, mais pas seulement la carrière, parce que c'est aussi ça qu'il faut qu'on parle. Alors certes, Tom n'est pas avec nous, mais il me semble que Ben, que tu veux invoquer son âme pour parler, on va parler argent, on va parler contrat, et effectivement, il y a certains joueurs pour lesquels ça peut changer des choses d'être ou non All-Star.
Exactement, je sens le message WhatsApp de Tom, bien Ben, sur le salary cap, mais, le mais varie. Alors du coup, en gros, pour faire simple, pour comprendre les joueurs au niveau du All-Star Game, faut comprendre une... Je vais pas le faire aussi bien que Tom. Faut comprendre une différence de base dans les contrats NBA entre les bonus qui sont likely, donc probables, et les bonus unlikely qui sont improbables. Les bonus likely sont comptés dans le salary cap du joueur. Exemple typique, Jalen Brown avait un bonus s'il était All-Star cette année à 1,5 million. Sauf qu'il a été déjà All-Star la saison dernière, donc le bonus était déjà inclus en fait. Il était considéré comme probable, donc il était inclus dans le salary cap déjà des Celtics. Et à l'inverse, il y a des bonus qui sont considérés comme improbables. Par exemple, la sélection All-Star Game de Sabonis était considérée comme improbable, donc elle ne comptait pas dans le salary cap, ce qui fait que l'année prochaine, le salaire de Sabonis passera de 19,4 à 20,7 en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité... Alors oui, c'est marrant quand on dit « Ah, il a gagné tant parce qu'il est All-Star Game », mais quand on compare ça au NBA, l'impact, il est quand même mineur. C'est vraiment... Parce que sachant que cette distinction entre bonus probable et improbable se fait avant le début d'une saison sur des calculs statistiques, bah, je suis désolé, mais All-Star Game, t'as rarement des mecs qui étaient sur le banc quelques semaines avant. Donc en fait, t'as des joueurs qui, la plupart du temps... Le bonus est considéré comme probable. Donc, certes, il gagne de l'argent, mais c'était des choses qui comptaient déjà dans le salary cap. Donc, c'est un impact qui est quand même mineur par rapport aux NBA qui peuvent juste se compter en dizaines de millions de dollars pour un joueur.
Bon, récapitulatif, on attend le mai de Tom. Je ne sais pas si Amine, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet financier.
Oui, on va dire. Oui, juste, il y a aussi le côté éligibilité au Supermax qui est beaucoup plus fort, en fait, avec le All-NBA que où il n'y a pas ça avec le All-Star. Je pense que c'est le truc le plus important, en fait. C'est-à-dire, quand tu vas négocier ton contrat, aller pouvoir chercher le palier supérieur, ça se fait avec les All-NBA et pas avec les sélections All-Star.
Effectivement, donc on voit qu'il y a, plusieurs impacts pour les joueurs, pour leur carrière, pour leur compte en banque aussi, pour le compte en banque des agents. Tu les as cités rapidement, Ben, alors on va une nouvelle fois parler d'eux. Mais pas que, et justement, parlons de l'évolution. Je pense qu'on va pouvoir revenir ensuite sur tout ce qu'on vient d'évoquer rapidement en premier lieu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça? C'est un peu la grande question. C'est pour ça qu'on va se laisser la majorité du temps aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut changer? Parce que l'All-Star Game, pour refaire un petit peu d'histoire, quand il apparaît dans les années 50, il y a environ 20% de l'ensemble des joueurs NBA, 20-25%, qui se retrouvent à être All-Star. C'est-à-dire qu'un joueur sur 4, un joueur sur 5, pratiquement un joueur par starting 5, se retrouve All-Star. Donc effectivement, c'est pas la même chose pour donner un ordre d'idée. Donc au fur et à mesure, ça évolue avec l'extension des équipes, avec l'extension des rosters aussi petit à petit. C'est-à-dire que les rosters sont de plus en plus grands. Le dernier gros changement, c'est l'ajout des two-way contracts en NBA. Ce qui fait que là, dans les années 2020, on va dire ça comme ça, on n'a plus que donc 24 all-stars pour 510 roster spots au total en NBA. Donc 4,7%. On a divisé par 4,5 le nombre de All-Star en ratio par rapport au nombre de joueurs totaux. Donc déjà, il y a eu un vrai changement avec tout ce que ça impacte. Est-ce qu'il faut rééquilibrer tout ça? C'est une des premières pistes. J'ai envie de vous relancer là-dessus. Je vais te lancer cette fois-ci toi, Amine. C'est une des premières pistes qu'on entend régulièrement. Est-ce qu'on doit augmenter le nombre de All-Star? Est-ce qu'on doit passer à des rosters à 15 joueurs, par exemple? C'est le chiffre un peu arbitraire qui est évoqué ici et là.
Moi, j'aime bien l'idée. Comme tu l'as dit, en fait, l'idée, elle se défend assez facilement. Il y a beaucoup plus de joueurs, donc pourquoi pas mettre plus d'All-Star? Et je pense qu'en plus, franchement, si tu vas jusqu'à 15, tu limites vachement les mécontents. Parce que là, tu rentres dans une caste au-delà de 15. Ça, je pense que c'est compliqué de pas inclure tous ceux qui potentiellement méritent d'être All-Star. Quand tu regardes cette année, par exemple, les mécontents d'un côté, ça dépasse pas 2-3 joueurs de chaque côté. À l'Ouest, tu peux dire que Booker aurait pu l'être, que Anthony Davis aurait pu l'être, mais tu vas pas beaucoup plus loin que ça. À l'Est, c'est pareil avec Harden, avec d'autres. Et du coup, pour moi, l'idée, elle est intéressante. Dans le même esprit, peut-être que tu parlais tout à l'heure d'évolution avec supprimer le poste de pivot dans les choix possibles. Ça serait peut-être intéressant aujourd'hui de choisir juste 5 joueurs pour les starters. Dans le sens où parfois tu as, comme c'était cette année à l'Ouest, peut-être plus 4 joueurs dans le front court, ou la plupart du temps ce sera peut-être plus 3 joueurs dans le back court, comme ça a souvent été le cas à l'Ouest. C'est plus facile de mettre par exemple 3 joueurs dans le back court si 3 joueurs méritent vraiment. On est vraiment à l'ère du positionless basketball, donc c'est aussi une idée qui pourrait aller dans le bon sens, je pense.
Oui, et puis il y a le truc de 15 joueurs, il y a aussi toujours chaque année, je sais que c'est un argument que j'ai lu, je ne sais plus, dans 2-3 articles, c'est un argument qui revient pour ceux qui défendent l'augmentation du nombre de All-Star, c'est que chaque année, on a des blessés ou on a des joueurs qui ne peuvent pas venir au All-Star Game. La dernière fois qu'il n'y a pas eu de remplaçant, je crois que c'était en 2004, quelque chose comme ça, et nouveau critère de sélection arbitraire, c'est-à-dire que qui décide du remplaçant qui devient All-Star, c'est le commissionneur en NBA. Donc voilà, il y a une personne qui a tous les droits de décider. Moi, je veux que ce soit lui qui vienne. Alors parfois, enfin souvent, plutôt tendance, notre cher Adam Silver à prendre un choix plus consensuel. Mais bon, quand même, on est sur une nouvelle fois une décision arbitraire avec 15. Tu pourrais te permettre de dire, bah écoutez, si ce joueur n'est pas disponible, tant pis. De toute façon, on a largement assez de joueurs pour les minutes à jouer dans le fameux All-Star Game. Ben, toi, qu'est-ce que tu penses de cette piste-là, ou s'il y en a d'autres qui t'intéressent ?
Je suis content, parce que parfois, on nous dit « Ah, vous êtes tout le temps d'accord ». Je ne suis pas d'accord. Parce que, du coup... non, en fait, pour moi, derrière la question du « Est-ce qu'on rajoute 15 joueurs ?» se pose en filigrane. Est-ce qu'on veut que ça reste quand même un vrai match de basket, ou est-ce que ça reste plus ou moins un vrai match de basket ? Parce que faire jouer 30 joueurs, alors je suis très mauvais en maths, mais 48 minutes, 5 joueurs, on a un total de 240 minutes à jouer. Et quand on regarde les All-Star Games, globalement, on remarque, en regardant, alors c'est pas de la grande analyse, hein, j'ai juste navigué dans les box-scores, les gars. En gros, il y a une espèce de limite mentale, je sais pas si c'est une espèce de règle tacite. Les mecs jouent tous 10 minutes, en fait, minimum. Même le mec, fin du bout du banc, il joue 10 minutes. J'ai vu même, enfin, Vucevic, c'était pas un All-Star qui était vraiment mis en avant, il jouait 10 minutes. En gros, il joue tout le temps 10 minutes, les mecs. Le fait est que si tu commences à monter à 15, alors c'est toujours possible, mais ça va un peu niveler le nombre de minutes pour tout le monde, et on risque de pas voir certaines associations, première chose. Deuxième chose, ça a déjà existé, en fait, dans la JJ Redick qui a fait une très bonne vidéo sur ça, et en fait en 71, 72, 73, il y avait eu 15 joueurs pour le Star Game. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les beaux scores de ces matchs-là, et en 71, on a 5 joueurs qui jouent moins de 10 minutes, en 72, 5 aussi, et en 73, 3. Donc ce qui existe pas trop autrement. Donc en fait, tu risques de... Je comprends l'idée, mais je me dis aussi qu'on mettra toujours une barre ailleurs, en fait. Ah bah oui, c'est peut-être le 17, le 18 et le 16e qui vont se plaindre maintenant. Parce qu'en fait, on recule constamment la barre. Donc, c'est pas la solution qui m'excite le plus, moi, honnêtement.
Ouais, alors moi, je suis plutôt pour, mais j'y vois aussi certaines limites. Parce que comme tu disais, Amine, genre, si tu augmentes le nombre de joueurs, tu auras peut-être moins de sentiments de joueurs qui méritent plus, enfin, qui auraient mérité d'être dans la liste. Oui et non. C'est-à-dire que comme tu augmentes le nombre de joueurs, tu dois abaisser entre guillemets les critères et se repose la question de la pondération. C'est-à-dire qu'arriver à ces joueurs-là, comment tu détermines pour prendre à l'aise, voilà, si Harden l'était, entre Harden et DeRozan, là, ils y sont. Mais voilà, ensuite, tu vas te retrouver avec des joueurs, voilà, ceux qui sont... Est-ce qu'on met un troisième joueur des Pelicans ou est-ce qu'on met un autre joueur des Celtics ou est-ce qu'il faut qu'on mette un très bon joueur de... Je sais pas, d'une équipe de bas de tableau, je vais pas en citer pour ne gêner personne. Mais voilà, quoi qu'il arrive... En abaissant les critères, il y en a d'autres qui vont dire « Ah ouais, mais lui, il était quand même pas loin, il aurait pu mériter. » Donc, ça reste quelque chose d'assez compliqué à 15. Et puis, augmenter le nombre de joueurs, c'est bien, mais aussi, tu augmentes la problématique qui arrive toujours, qui est peut-être un peu moins importante cette année, mais qui a été souvent soulevée ces dernières années, de la différence entre les conférences. Moi, l'axe qui m'intéresse le plus, c'est pourquoi... Sachant qu'en plus, on a changé le critère de sélection des équipes. Maintenant, on a le système de draft depuis quelques années. Donc, il y a un capitaine par équipe, pour ceux qui n'ont pas suivi. Le joueur qui a été le plus voté, qui choisit son équipe, et chacun leur tour, ils prennent leur joueur. Bon, quelle est la pertinence d'avoir des sélections Est-Ouest si on n'a plus d'équipe Est-Ouest ? Donc, pour moi, les deux sont un peu liés. C'est-à-dire augmenter le nombre de joueurs, certes, mais dans ce cas-là, on enlève certains critères des plus arbitraires, parce que finalement, que tu joues à l'Est ou à l'Ouest, qu'est-ce que ça change sur ton niveau de jeu basket ? Donc, peut-être que, justement, c'est plusieurs choses à changer en même temps pour lisser tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Amine, pour te redonner la parole, pour qu'on fasse un échange.
Oui, sur le côté Est-Ouest, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi il y avait Est-Ouest ? Comme tu l'as dit, c'est parce que c'était le match qui à l'époque, c'était l'Est contre l'Ouest. Et en plus, il y avait, disons, plus de... Pendant un moment, en tout cas, il y avait plus de rivalité, plus de bagarre. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus le match Est-Ouest ? Parce qu'en fait, plus ou moins, ils s'entendent tous très, très bien. Et du coup, il n'y a pas vraiment de bagarre. Et c'est pas parce qu'il y a un match Est-Ouest que ça va mettre plus de compétitivité dans le match. Et du coup, pourquoi pas aller plus loin et justement enlever cette possibilité de classement ? Maintenant, tout ça, c'est intéressant, mais je me demande jusqu'où, en fait, parce que sur les 15, vous avez raison, surtout d'un point de vue du match, en fait. En fait, peut-être il faut définir ce que doit être ce match avant de choisir ce qu'est la sélection. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il est, ce match du All-Star Game ? Moi, j'en attends pas grand-chose, personnellement. Et quand il se passe quelque chose, je suis content. Comme c'était le cas en 2020 ou 2021, je me rappelle plus, mais en tout cas lorsqu'il y a le premier 24,
règle.
Ouais c'est ça. C'était un bon match, ce match-là du All-Star Game. En tout cas un bon quatrième quart-temps si je me rappelle bien. Et c'était agréable à regarder. Mais disons que faut peut-être définir ce que doit être le match avant de définir comment on sélectionne.
Oui, oui, bah surtout qu'en plus, à l'origine, je regardais l'historique, parce que forcément, quand on fait une recherche, on arrive au tout début. Quand l'All-Star Game arrive en NBA, alors en NBA, il arrive, c'est surtout, il faut refaire de l'audience, parce qu'on a des problèmes, il y a des polémiques ici et là. Mais il est calqué sur l'All-Star Game de la MLB, du baseball, qui lui a été créé à la base pour être un match, donc effectivement spectaculaire, mais un match caritatif, en fait, qui génère des fonds pour, en l'occurrence, c'était les familles des joueurs morts prématurément. Donc voilà, c'était un match un peu caritatif. C'est vrai, donc ça repose cette question. Est-ce qu'on veut se calquer plus sur quelque chose comme ça ? C'est ce qu'ils font là à chaque quart-temps, selon l'équipe qui a gagné. Il y a des fonds qui sont pris ici et là. Voilà, est-ce que c'est un match caritatif ? Est-ce que c'est un match showtime ? Est-ce qu'on veut un match compétitif ou non ? C'est vrai que c'est assez partagé entre les observateurs et les fans. C'est vrai que nous, qui analysons souvent, qui regardons beaucoup de matchs, je sais que chez Dunk Hebdo, on n'est pas tous des grands fans de ce match puisque l'intérêt basketball n'est pas énorme. Ben, je te vois lever les bras. Que veux-tu ajouter
j'adore
là-dessus ?
J'adore le All-Star Game. Moi, j'adore ce match. En fait, non, moi, c'est un peu une posture, mais ça me saoule ce moment où... Alors, chez certains, je pense que c'est réel, mais d'autres, ça fait un peu... non, mais de toute façon, le All-Star Game, moi, je préfère garder un bon vieux Rockets Magic pour analyser les... Tu vois, il y a un moment, c'est une posture. Chez certains, c'est une posture et ça m'énerve. Passons. En fait, moi, je veux juste revenir sur un détail, sur les conférences. J'ai une théorie. Ils les ont... On n'a pas supprimé complètement les conférences parce que ce nouveau format de team LeBron, team Giannis, team Durant, etc., c'est une réponse à ce qui s'est passé il y a genre 5-6 ans. Souvenez-vous, le format, il a été changé à l'intersaison 2017. C'est quoi l'intersaison 2017, les gars? C'est le premier titre des Warriors. C'est le moment, c'est un des moments où je pense que le déséquilibre est le plus violent. Donc, on se dit, bon, pour le All-Star Game, on va faire ça. Mais je pense que intimement, dans l'idée des dirigeants NBA, ils voudront revenir. Ils auraient déjà pu le refaire, mais je pense qu'ils veulent un peu tester la formule. Il y a l'idée de revenir un jour sur Est-Ouest classique. Je suis persuadé de ça. Ça a trop de sens dans l'imaginaire NBA, Est-Ouest, où même s'il y a moins de rivalité, je suis assez d'accord avec vous, il y a quand même le fait que, bah, in fine, à la fin de la saison, tu as une équipe de l'Est et une équipe de l'Ouest, en fait. Donc, ça a du sens d'opposer Est-Ouest au All-Star Game. Après, sur ce que doit être ce match, je suis d'accord avec vous, en fait. C'est un débat sans fin, mais pour plein de raisons, le match ne peut pas être par essence compétitif. Donc, faisons un match un peu collégial, carême, sans que ça soit le cirque Pinder, ok. Mais en tout cas, un match où on peut parfois avoir des bonnes surprises, comme le dit Amine. Mais le fait est que pour moi, c'est pour ça. Ce podcast est un peu ma commande, ou en tout cas, j'ai eu certaines des idées. C'est qu'en fait, pour moi, plutôt que de, encore une fois, se plaindre du fait que c'est un non-match, essayons plutôt de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à la marge pour que au moins le spectacle soit plus intéressant. Et pour moi, ça passe en partie par comment on sélectionne les joueurs. Ensuite, si tu me demandes de donner des critères, Adrien, oui, la spectacularité devrait être un critère, je trouve, pour un All-Star Game. Ce qui fait que, plutôt dans le résumé d'une carrière d'un joueur, plutôt que de mettre en avant le All-Star Game, il faudrait mettre en avant les All-NBA. Mais ça, c'est un truc, je pense, qu'on aura du mal à faire avec le temps.
Mais ce qu'il ne faut pas, du coup, séparer, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que donc les fans majoritairement, fans joueurs et médias, mais fans majoritairement décident des starters. Les coachs décident des remplaçants. Les médias ont leur mot à dire sur les All-NBA Team à la fin de la saison. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi segmenter tout ça et dire, bon, bah, ok, si le All-Star Game, que vous dites, ça doit être un spectacle, pourquoi pas, allons-y. Dans ce cas-là, c'est totalement pour les fans. C'est les fans qui décident de tout le monde. On supprime aussi les questions des postes. On prend les joueurs que les fans ont envie de voir et on y va à fond. Auquel cas, tu es sûr d'avoir les plus spectaculaires. Et ensuite, ça demande aussi de changer un peu comment on perçoit l'héritage des joueurs. Les sélections All-Star Game, on n'en a plus rien à faire. On regardera les All-NBA Team pour voir si le joueur a été vraiment bon, parce que finalement, ce que les fans ont aimé, c'est intéressant, mais ça ne dit pas forcément grand-chose sur la véritable carrière d'un joueur. Sauf que se repose le problème éternel, et c'est un peu une toile de fond qui revient régulièrement dans nos podcasts comme ça, théoriques sur la NBA, de l'héritage et de l'histoire. En NBA, on adore les stats qui ont toujours été les mêmes parce qu'on a toujours fait comme ça. Et je vois pas pourquoi on changerait parce qu'on a toujours fait comme ça. Et du coup, si on se met à ne plus considérer la sélection All-Star comme un gros achievement dans une carrière, alors comment on juge un joueur de maintenant ou du futur proche par rapport à un joueur des années 70-80? Donc, c'est une pièce en l'air parce que j'ai pas de réponse à ça, mais peut-être que c'est segmenter les différentes accolades, comme tu disais, les différentes récompenses en NBA pour être une piste, en tout cas, pour arrêter la frustration autour des sélections All-Star.
Est-ce qu'il faudrait pas tout simplement, moi les gars, la solution pour moi, elle est pas toute trouvée, mais la formule 50% fan 25-25, il faut l'élargir jusqu'au bout, en fait. En gros,
On enlève les coachs?
Les coachs, ou alors les coachs, on leur donne un espèce de pouvoir de, je sais pas, de juge s'il y a une égalité ou un truc qui se crée comme ça, genre dans la formule. Mais je trouve qu'on devrait continuer la formule du 5 de départ sur tout le reste, parce que en soi, si on prend un exemple comme cette année, si on suit cette formule-là, c'est pas trop scandaleux. Mon problème avec donner trop de pouvoir aux fans et tout aux fans, c'est que ça pourrait vraiment finir en cirque, en fait. Genre, vraiment, il y a vraiment une vraie possibilité pour que ça n'ait strictement aucun sens, surtout avec la manière dont on peut voter. Et si on donne fan-joueur, les joueurs, on n'en a pas encore trop parlé, mais les joueurs, il y a certains trucs où tu vois que ça joue à la réputation chez certains. Donc, non, continuons la formule actuelle et mettons, allez, je vous accorde les 15 joueurs si vous insistez. Mais en tout cas, faisons comme ça, je pense. C'est une première piste.
Qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté de la table des négociations, Amine?
Ben moi, j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée. De prime abord, quand j'ai commencé à y réfléchir, j'avais pensé un peu comme toi, Adrien, sur le donnant le pouvoir aux fans, puisqu'on en est là. Mais en fait, il y a trop de dérives, comme l'a dit Ben, et on l'a vu récemment. On a vu Andrew Wiggins starter, on a vu à quoi ça peut mener. Et ça, pour l'instant, c'est pas si grave, Andrew Wiggins starter. Mais si on en parlait un peu en off, mais si demain un nouveau Chinois arrive en NBA et que la Chine vote massivement pour qu'il soit starter alors que c'est le 15e homme d'une équipe, par exemple, bah, ça peut arriver. Et du coup, ça ouvre un peu plus de problèmes. Du coup, l'idée d'élargir, par contre, le système de vote aux 12 ou 15 joueurs, peu importe, total, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même un côté, finalement, garde-fou de la part des médias et des coachs par rapport aux fans. Et au final, comme l'a dit Ben, quand on regarde un peu les votes un peu plus loin que les starters de ce système, c'est pas scandaleux du tout, en fait. Tu te retrouves avec quelque chose qui peut-être fait tout aussi sens qu'actuellement. Donc, moi, j'aime bien l'idée, en tout cas.
Ouais, mais l'idée est intéressante, mais une nouvelle fois, si on continue dans cette idée de vouloir faire du All-Star Game un match de spectacle, parce que c'est vrai que l'intérêt, comme tu disais, que les coachs soient un peu les garde-fous, c'est que ça permet à des joueurs d'un profil un peu moins spectaculaire, un peu moins offensif, mais qui sont des très bons joueurs de basket, des glue guys, des très bons défenseurs, etc., d'avoir une ou deux petites récompenses dans le CV où il y a écrit All-Star quelque part. Bon, il y a Jrue Holiday qui est le nom de cette année, mais ça arrive régulièrement. Il y a toujours un défenseur ici et là. On peut penser à Ben Wallace il y a quelques années, ce type de joueur-là. Bon, voilà, des joueurs moins spectaculaires, mais des joueurs qui sont des bons joueurs de basket, d'avoir leur petite ligne. Et comme on le disait, ça joue dans la legacy, ça peut jouer dans le contrat, etc. C'est vrai que moi aussi, j'aime bien que ça reste. Si le All-Star Game doit toujours être un des grands rendez-vous, ce qu'on lit dans la ligne de CV et ce qui n'est pas prêt de changer, comme on disait tout à l'heure, j'ai peu d'espoir que les All-NBA teams, dans la perception collective, prennent le pas sur le All-Star Game. Dans ce cas-là, c'est embêtant de tout donner, enfin d'enlever, entre guillemets, la récompense des coachs, même si on revient à ce que tu disais, Ben, un peu plus tôt, au sérieux des votes des coachs qui, parfois, comme tu le disais sur les joueurs, genre vote un peu soit à la réputation, soit voilà à l'affect, on va dire, de joueurs qu'ils aiment bien, qu'ils considèrent être des bons joueurs, parce que bon bah voilà, il est bon depuis 2-3 saisons, si cette année il est moins bon, c'est pas grave, je le mets, ou si son équipe est moins bonne. Et même si ça, tu le dis, voilà, le fait que DeRozan soit All-Star cette année, même si j'adore le joueur et qu'il est probablement toujours, on verra, on fera les comptes en fin de saison, mais toujours au moins pas loin du DH20, est-ce qu'il mérite d'être All-Star à cette mi-saison? C'est pas certain. Donc il y a aussi cette problématique là.
Mais tu vois, si tu prends un joueur comme Jrue Holiday, chez les joueurs, on pourrait se dire, ah, il a pas une grosse cote. C'est un mec qui finit 10e chez les joueurs, en fait. Donc, tu te dis, enfin, il finit largement. Non, mais il finit quand même devant Trae Young, par exemple, chez les joueurs. Donc, je pense que là où je suis d'accord, le fait qu'un mec comme Jrue Holiday, qui finit 15e chez les fans, oui, n'aura peut-être pas l'apport d'un mec, si on file la comparaison, Trae Young qui finit 5e chez les fans. Bah, le fait est que si tu rajoutes en plus cet apport média, où c'est intéressant de voir que les deux finissent à égalité, 6e chez les médias, bah, quand tu calcules, ils ont tous les deux votes sur 100. Bah, au final, tu te dis que le garde-fou d'avoir d'un côté les médias et les joueurs pour rééquilibrer les fans, ça a un peu de sens. Alors oui, bien évidemment, si tu laisses toujours 50% aux fans, les profils défensifs seront un petit peu sanctionné, mais j'ai pas dans l'idée que sur l'histoire récente, les joueurs défensifs aient vraiment été totalement mis de côté. Tu vois, l'exemple aurait été de jamais voir Rudy Gobert All-Star Game, on se serait dit, ok, là c'est scandaleux, Rudy Gobert a fait ses All-Star. Draymond Green, bon, alors il était avec les Warriors, a fait ses All-Star. Il y a qui de vraiment dominant défensivement où on se dit, ah, il aurait dû finir All-Star Game, il ne l'a pas été.
Adrien citait Ben Wallace il y a un instant. Ah, qui n'a pas été, d'accord.
Ah, qui n'a pas été, j'ai pas de...
Ouais, mais je pense que ça va avec l'évolution de la Ligue, excuse-moi rapidement, mais on a aussi de plus en plus de joueurs, enfin, de moins en moins de joueurs trop unidimensionnel, trop uniquement défenseur, sinon ça pose un problème, il voit plus le terrain, et Amine voit très bien de quoi je veux parler, par exemple, du côté des Sixers.
Il a été en star.
Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Je pense vraiment, c'est horrible de vous offrir 45 minutes pour en arriver à cette conclusion, je suis désolé. je pense vraiment, il y a de ça, il y a deux. Après, là où je me contredis, c'est que pour moi, il y a vraiment... Il y a juste le côté média où j'aime pas le fait que les médias aient 25% All-Star Game, 100% de All-NBA, mais il y a tout le monde s'équilibre bien, cette formule est bonne, c'est juste arrêter cette boîte noire des coachs qui envoient la réputation, qui ne remplissent pas leur rôle de garde-fou sur certains points parce qu'on sait pas ce qu'ils font en fait.
La réputation, c'est aussi valable pour les joueurs, comme tu dis, ils sont qu'à 25%, mais tu vois, DeMar DeRozan, pour revenir, il est 4e chez les joueurs sur les guards à l'Est, parce qu'il est considéré comme guard, ça c'est une autre problématique, mais 4e chez les joueurs, c'est quand même très très haut, par rapport à cette année. Donc même les joueurs, voilà. Bon, après, comme tu dis, il y a la pondération, peut-être mettre les coachs aussi, baisser les médias, comme tu dis, à laisser 50% fans et faire un 20-15-15, quelque chose comme ça, avec les coachs et les médias.
Après, tu peux faire 25 coachs, 25 joueurs, 50 fans. Mais...
Et plus de médias. Et comme ça, tu laisses les All-Star, les All-NBA aux médias. C'est un peu ça le...
Un peu. Alors, les gens vont croire que je suis un pur populiste, les médias, etc. Non, c'est juste qu'en fait, c'est... Ça... Encore une fois, je l'ai dit au début en introduction. On vous ment. Genre, je l'ai dit au début, j'ai trop de mal avec le fait que les mecs votent pour les All-NBA en février. En fait. Ils font tous ça. Je voyais encore passer un article de Jackson Frank où tout le monde a dit « Oh là là, merci, il a enfin abordé l'All-Star Game sans bilan, en gros, en se concentrant sur ce que font les joueurs. » Oui, mais on est tous d'accord que dans l'équation, alors c'est bête de dire ça parce qu'il n'y a pas de critères, on l'a dit depuis le début, les équipes, ça paye un peu, en fait. Historiquement, on voit qu'il y a un truc avec l'équipe, en fait. Donc, il y a un moment, si tu balayes toute l'histoire du All-Star Game, tu votes pour les All-NBA, en fait. Tu ne votes pas pour l'All-Star Game.
Mais est-ce que la All-NBA de mi-saison, c'est pas justement aussi en partie ceux qui ont fait, tu vois, qui sont les meilleurs joueurs, parce que les NBA, il y a aussi parfois, hein, j'en perds ma voix, il y a parfois un espèce de, alors j'arrive pas, de biais de fait que ce soit récent. Très très mal traduit, mais parce que je voulais pas faire l'anglicisme encore une fois. Mais c'est vrai que sur les fins de saison, les joueurs plus marquants sur un run de fin de saison vont monter dans les All-NBA team, on le voit aussi. Et donc, ça joue toujours, tu vois, même si tu te dis, allez, je prends les meilleurs joueurs de cette première partie de saison, sans vouloir mettre dans l'absolu s'il y a un mec qui a été moins bon, et s'il y a un mec, voilà, s'il y a un Lauri Markkanen qui fait un peu d'exploit, et ben on va quand même voter pour lui. J'ai pas regardé, je l'ai plus sous les yeux, la place de Markkanen chez les médias, mais j'imagine qu'ils ont quand même voté pour lui. Donc peut-être que c'est un peu une idée, mais comme tu dis, à un moment donné, il va falloir l'écrire sur le papier ce qu'on en fait de ce série. Parce que c'est pas ça la conclusion.
Tu vois, c'est comme les limites de minutes. A priori, ça paraît être une super idée. Et quand ils pensent, au passage, Markkanen est cinquième chez les médias. Donc c'est assez cohérent. En fait, Markkanen, par exemple, c'est un bon exemple parce qu'il finit quatrième chez les joueurs, septième chez les fans, cinquième chez les médias, en fait. Tu vois que, il y a eu un engouement autour
de lui. C'est équilibré.
C'est équilibré pour un joueur qui est quand même, de base, pas une superstar NBA qui joue à Utah. Enfin, bref. Mais, pour en venir de base à ce que je disais et que j'ai oublier, oui, les limites de minutes. Moi, je sais pas vous, les gars, mais je compte parce que je pense que tu pourrais commencer à faire des calculs d'apothicaire en mode, on sait qu'il y a le load management actuellement NBA. Je pense que les mecs pourraient s'arranger pour tomber juste au-dessus au moment où ça vote, quoi.
Minuc.
Oui, bah, en fait, je crois que t'as tout dit un peu à la fin quand t'as dit le truc, c'est définition un peu tout. En fait, nous, on cherche des axes de réflexion, mais l'important, c'est que eux le définissent clairement. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et que ça soit mieux défini, en tout cas. Parce que là, c'est un peu un gloubi-boulga, oui. Donc, les starters, c'est comme si, les remplaçants, c'est comme ça. On vous dit pas qui a voté pour qui a voté pour quoi. C'est compliqué.
Ouais, est-ce qu'on en revient pas, hein, je voudrais pas le blâmer une nouvelle fois, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette critique d'Adam Silver. Il va falloir qu'on cite une nouvelle fois son nom, qui est souvent un peu dans l'indécision, qui veut pas trop trancher. On a une formule qui marche plutôt bien. Ça fait beaucoup d'audience, le All-Star Game, malgré les quelques baisses d'audience qu'il y a eu justement ces dernières années sur les matchs NBA. Il faut aussi dire ce que c'est à la télévision. Le All-Star Game, c'est toujours un carton. C'est un carton, qu'on l'apprécie ou pas. Si voilà, quelques initiés chez nous font un peu les, comme tu dis, Ben, ont un peu la posture genre non, c'est pas du vrai match de basket. Moi, je préfère regarder.
Non, chez nous, c'est pas une posture. Attendez, si tu dis que chez nous, c'est une posture, je vais être mal dans le groupe après.
non, mais bien sûr. Mais même si c'est vraiment le cas, même si on préfère, c'est vrai que l'intérêt basketballistique de ce match du All-Star Game, pour ceux qui suivent et qui aiment le basket en lui-même, c'est peut-être pas le plus intéressant. Mais pour le produit NBA, qui reste un divertissement, il faut le rappeler, c'est un sport et c'est un divertissement pour le monde entier. Les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui n'auront pas beaucoup de matchs, regardez le Star Game, t'as tous les meilleurs joueurs, enfin, en tout cas, parmi les meilleurs joueurs. Allez, on revient à cette question, est-ce que ce sont vraiment les meilleurs joueurs? Bref, ils sont quand même tous là, réunis au même endroit pour un match, et ça fait énormément d'audience. Et justement, même si cette formule a ses limites, on les évoque depuis tout à l'heure, Amine, tu l'as bien dit, peut-être qu'ils n'ont pas trop envie de trancher en NBA, justement, de changer quoi que ce soit, parce que si tu touches un critère ici et là, peut-être que tu peux embêter, abîmer ton produit, quoi.
C'est ça, c'est qu'en fait, en donnant trop de, peut-être en rééquilibrant la formule, il faut que c'est un produit d'appel pour les gens qui regardent la NBA à mi-distance, quoi, ou derrière la ligne à trois points, tu vois, pas ceux qui sont dans la raquette, tu vois, si je file la métaphore. Et du coup, il faut qu'il y ait des figures marquantes. Par exemple, oui, à la fin, Kobe qui se retrouve au All-Star Game sur le niveau, est-ce que c'est justifié? Non, mais ça reste, c'était voilà, une tête d'affiche de la NBA. Donc, ça reste ça, en fait. Il faut se demander à quel public viser. Bah, c'est le public des personnes qui regardent la NBA un peu de loin. Donc, la formule a l'avantage de proposer ce genre de garde-fou. C'est par exemple, tu vois, Adrien, c'est pour ça que Adam Silver, il se donne le pouvoir de choisir le mec, le remplaçant en cas de blessure. Parce que c'est un pouvoir absolument extraordinaire. C'est génial. Bon, entre le mec qui joue dans une équipe qui est certes peut-être méritant, mais qui joue dans une équipe un peu moins glamour, etc., et le mec qui joue à New York ou à Los Angeles, vous remarquerez que j'ai pas dit gros marché parce que là, ça ressort. Là, en ce moment, ça ressort gros petit marché. J'en chope de l'urticaire. Je vais faire le choix avec le mec qui a peut-être un peu plus de valeur et qui sera un meilleur produit pour les fans qui regardent depuis la mi-distance. Donc voilà, c'est une conclusion vraiment mauvaise à ce monologue. Mais le fait est qu'il faut aussi comprendre qui sont les personnes visées. Et tout simplement, ces personnes-là veulent... Tu as besoin d'avoir des joueurs que tu reconnaisses, quoi, tout simplement.
Et je pourrais te rajouter un petit axe à ta conclusion pour t'aider, si tu veux. Il y a aussi un truc qu'on n'a pas évoqué, parce que oui, on débat, ça fait 50 minutes qu'on en parle, on voit les débats sur Twitter depuis une semaine, les débats, les polémiques, ça fait de l'audience, ça fait de l'engagement sur les réseaux sociaux, ça fait de la pub à ta ligue, les gens viennent voir, ah, pourquoi il y a autant de gens qui défendent tel joueur, pourquoi il y a autant de gens qui n'aiment pas celui-là, alors je vais aller regarder, etc. C'est aussi une des stratégies de la NBA, et on l'évoquait rapidement entre nous, c'est d'être visible, finalement, aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous accès, et on en est très heureux, aux images sur Twitter le lendemain. Tu as les dunks, tu as les stats, tu as des résumés, tu as tout ce que tu veux sur YouTube. On peut tout voir. Et ça participe de ça. Garder une formule qui a des avantages, on l'a dit, qui finalement n'est pas si mal, mais qui a quelques inconvénients suffisants pour faire parler beaucoup de gens, notamment les fans qui sont, de toute façon, l'audience numéro un. C'est aussi une bonne formule, finalement, du point de vue juste de la NBA, peut-être.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est clair que le côté créer de l'engagement, tu peux pas espérer mieux que créer des polémiques, de toute manière. C'est tout simple et ça marche nickel. Moi, je voulais évoquer aussi un autre truc. On devait l'évoquer qu'à la toute fin, mais est-ce que le match des All-Stars, est-ce que c'est vraiment le baromètre du All-Star Game, finalement? Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Moi, j'adorais regarder le All-Star Weekend pour voir un super slam dunk contest, pour voir un super concours à 3 points. Et ça, c'est en baisse totale. On peut pas dire le contraire, surtout vu le slam dunk de l'année dernière. Et c'est pas dû forcément juste à la qualité, parce que l'année dernière, c'était aussi la qualité, mais c'est pas toujours dû juste à la qualité, c'est aussi les participants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le slam dunk, tu as Shaedon Sharp, Trey Murphy, Kenyon Martin Jr. et Mac McClung. Alors, c'est sympa, tu vends Kenyon Martin Jr., fils de Kenyon Martin, tu vends Shaedon Sharp qui monte sur tout le monde, mais ce qu'on a envie de voir, c'est ce qui se passait avant, c'est que les mecs viennent écrire leur legacy aussi pendant des slam dunk, pendant des concours à 3 points. Demandez à Michael Jordan si ça n'a pas aidé sa legacy d'aller gagner le slam dunk qu'il a gagné. Et on a envie de voir, par exemple, Ja Morant et Anthony Edwards et Zion se faire la guerre sur un slam dunk, quoi. Et pareil pour le concours à 3 points. Bon, le concours à 3 points, disons que les joueurs y participent plus facilement.
Il y a moins de risques de blessés.
Je pense que c'est lié au côté blessure. Du coup, le concours à 3 points, je le trouve d'ailleurs plus ou moins toujours assez sympa à regarder ces dernières années. Il y a aussi le match des rookies. Alors, il y a des tentatives. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des tentatives parce qu'ils changent régulièrement justement pour essayer de voir ce qui fonctionnerait le mieux. Et pour l'instant, en fait, tout ce qui se passe autour du week-end n'est pas parfait. Et le match, c'est le bouquet final. Si ton week-end s'est bien passé, peu importe ce qui se passe dans le match, l'événement du match All-Star Game, c'est justement les sélections, plus que le match en lui-même, finalement. Donc, tout ça, c'est un grand tout. Et en fait, faut réfléchir à comment améliorer le truc pour créer le plus d'intérêt possible pendant le week-end. Parce que créer de l'intérêt en dehors du week-end, ça, il n'y a pas de problème. Effectivement, je pense que l'All-Star Game n'a jamais créé autant d'intérêt actuellement en dehors du week-end qu'actuellement.
Ouais, bah t'as amené le sujet final, Ben. Qu'est-ce que tu penses, notamment, effectivement, ça tourne aussi beaucoup autour du Slam Dunk Contest. Le reste de la formule, peut-être qu'il y aurait des choses à dire, mais ça va être compliqué. Est-ce qu'il faut changer le Skills Challenge? Grande question. Est-ce qu'il faut faire le Skills Challenge aussi? Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a toute l'évolution autour du week-end où on suit jour après jour et on attend certains grands rendez-vous avec, voilà, à la fin, en point de mire, cette espèce de grand match du All-Star Game qui est censé être la grande conclusion. Mais avant, c'est le Slam Dunk Contest, c'est vrai qu'il faisait beaucoup parler. Les posters qu'on avait dans la chambre, etc., c'était très souvent ce genre, des dunks qui étaient claqués dans ces concours, qui étaient extraordinaires, avec des joueurs iconiques, avec des tenues iconiques. Ben, je sais que tu es très sensible à un certain Superman,
par exemple. Dwight Howard, Superman, incroyable.
Voilà. Est-ce qu'on aimerait retrouver des Superman plutôt que, et c'est sans leur faire offense, hein, des Trey Murphy ou des Shedon Sharp.
J'avoue que j'ai vraiment dû me concentrer pour éviter le fou rire quand Amine a donné la liste des mecs qui vont participer. Bref, alors les vrais savent que le vrai début du All-Star Game, c'est le Celebrity Game. Hein. Ça, c'est vraiment le début pour les vrais, où Stephen A. Smith parfois fait le coach. Bref, alors, si on prend le week-end dans l'ordre, moi, j'en ai ras-le-bol qui change tous les ans la formule pour le match l'ancien rookie sophomore, où je ne sais même plus ce que c'est des fois. Je me dis, oh, attends, est-ce que c'est international?
C'est international.
Qui revient, est-ce que c'est... Je ne comprends pas. Moi, j'aimais bien le folklore des mecs avec leurs maillots qui jouent ensemble. Enfin, voilà, j'avoue que je suis un ultra conservateur du All-Star.
Il y a les maillots aussi. On pourra parler des maillots aussi.
Ouais. les maillots aussi, tu vois. Bref, passons.
Oui,
les maillots, ça, c'est... Tu vois. Oh mon Dieu, je deviens un vieux con de 26 ans. C'est vrai.
Rejoins-nous, Ben, rejoins-nous.
Sur le concours, alors moi, je me suis souvent posé la question. Alors, concours à 3 points, je pense que oui, il y a moins de risques de se blesser. C'est surtout que globalement, c'est beaucoup moins partagé, les gars, je pense. Donc en fait, il y a des mecs, il y a des grosses têtes d'affiches qui ont perdu le concours à 3 points. Ça va, tu vois, et qui se sont vautrés quand même parfois. On parle pas. Vrai. Par contre, si tu te votes sur un dunk, tout le monde le voit. Hein. C'est un peu différent. Par rapport au concours de dunk, moi, je me suis beaucoup posé la question. Je me suis déjà dit, est-ce qu'il faudrait pas faire voter les fans? Mais le truc, c'est que les 4 premiers vont dire non, non, non. Je sais pas, est-ce qu'il faut que quelqu'un relance la machine? On l'a vu que parfois, ça peut être aussi des joueurs de second rang entre guillemets, hein, parce que je veux dire que Aaron Gordon et Zach LaVine, au moment où ils le font, c'est pas des super têtes d'affiche de l'NBA. Le fait est que c'est des dunkers de génie et qu'ils font un concours légendaire, je pense qu'on peut le dire, vraiment. Donc, il faut réussir à motiver peut-être ce deuxième échelon, parce que là, le problème, c'est qu'on est vraiment sur la fin de la liste de la fin de la liste. Enfin, je veux dire, on a vraiment des mecs qui, parfois, 2 ans après, sont plus en NBA. Donc, c'est là où c'est ultra compliqué. Ouais, vas-y, Adrien.
Oui, non, mais c'est pour aller abonder dans ce sens. C'est exactement ce que je voulais dire. Je m'étais noté. On se retrouve avec des mi-stars, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas les superstars, mais il faut quand même des noms qu'on reconnaisse et des gars qu'on voit régulièrement, en fait, dans les highlights. C'est-à-dire qu'il faut aussi, pendant un temps, le concours de dunk, quand on se retrouvait avec que des stars, mais qui venaient, comme tu dis, rater 10 dunks de suite pour ensuite claquer un truc un peu limite, il y avait aussi le. De toute façon, comme toujours, il y a toujours, on entend la minorité. Vocal qui disait, bah oui, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir juste des vrais dunkers? Parce qu'au final, c'est vrai que si on compare le concours de dunk de la NBA à un concours de dunk de pur dunker, qui ne sont pas des joueurs de basket, mais des dunkers, bon, bah, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Donc, il y a un espèce d'équilibre à trouver, et c'est vrai que s'il est peut-être à trouver au niveau, voilà, de ces gros dunkers de match, des gars qu'on voit dans les top 10, on voit les gros posters, qui sont encore dans la force de l'âge, qui ont la possibilité aussi de mettre le temps, comme tu l'as dit, la préparation, parce que ça se prépare, un concours de dunk, c'est des répétitions, etc. Parce que t'as pas envie de passer pour un idiot et de rater tes dunks. Donc voilà, le Zach LaVine, Aaron Gordon, je pense pas qu'on en aura des aussi bien de sitôt, mais c'est vrai qu'on pourrait, là, t'as cité Anthony Edwards, par exemple, Amine, voilà, on est sur un énorme dunker de match qui nous claque des posters incroyables et qui est un bon joueur actuellement, qui n'est pas encore en jeu de jouer le titre à la fin de saison. Bon, peu de chance de voir les Timberwolves en finale de conférence, par exemple. Donc, les gars, est-ce que tu pourrais pas venir? J'en sais, c'est vrai que c'est tout ce qu'on aimerait, mais est-ce que ça peut vraiment arriver? C'est ça, la question.
Moi, je pense, le côté spécialiste du dunk, là, si tu regardes la liste un peu quand même, Shedon Sharp, c'est le truc, c'est que j'aimerais bien le voir dans 4 ans ou 5 ans au concours de dunk, parce que c'est un dunker. On l'a vu justement dans des highlights, on voit quasiment que ça de lui finalement la plupart du temps. Et pareil, Kenyon Martin, ça monte haut, c'est la même chose. Mais le truc, c'est moi j'étais plus vraiment, tu vois, t'as parlé d'Anthony Edwards, moi j'aime bien le côté un peu rivalité, c'est ça qui est cool aussi. C'est-à-dire si tu envoies Anthony Edwards, si tu envoies Ja Morant, si tu envoies Zion, des mecs un peu de la même génération qui sont tous des dunkers et tout, ça va se taper dessus. C'est des stars. Et en fait, là, vraiment, pour l'intérêt, c'est pas que le côté meilleur dunker. Parce que vous avez cité Lavin Gordon, mais il y a le Gordon Derrick Jones aussi, qui était pas mal, en vérité. Hein. Chaque fois qu'il y a Aaron, en fait, il faut faire venir Aaron Gordon. Chaque fois qu'il y a Aaron Gordon, c'est vraiment bien. C'est ça. Mais on a envie un peu de star system. On a envie de ce qu'il y avait justement avec Michael Jordan, quand Dwight Howard l'a fait, quand Dominique Wilkins l'a gagné, c'est pareil, c'est des choses qui marquent beaucoup plus finalement. Et j'ai envie de dire, Lavin Gordon, c'est un épiphénomène. Ils étaient tous les deux en grâce totale en fait ce soir-là. Et on attend un peu de storytelling, j'ai envie de dire. Sur ça. Là, on a l'impression que le concours de dunk, oui, on va vous montrer des jolis dunks si ça se passe bien, quoi. C'est tout ce qu'on nous propose.
Oui, c'est ça. Puis le Gordon Lavin, c'est vrai qu'en plus, on est sur le côté star en ascension. C'est quand même pas... Bon, Lavin, là, est en train quand même de prendre une autre dimension un petit peu, mais on est quand même sur des joueurs qui étaient surtout des énormes dunkers et des starters solides. C'est vrai qu'on n'est pas sur la même dimension que... Bon, t'as cité Wilkins, Michael, Devin Carter à l'époque, des gars comme ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça qu'on veut, c'est les stars, les transitions de génération. Peut-être que c'est ça le bon moment. Justement, avant que la Ligue appartienne à Ja, à Ant et compagnie, justement, affirme ton arrivée en claquant un énorme concours de dunk, ce qui était un peu ce qui se passait avant. C'est peut-être ça, ce storytelling qui manque. Ben ouais, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose.
Ce qui manque, ce qui manque, et tu l'as parfaitement résumé, Adrien, ce qui manque, c'est les mecs que tu vois dans le top 10 tout le temps, en fait. Genre, tu vois, milieu des années... Oh, je vais défendre... cette fin de podcast est affreuse.
Rejoins-nous, Ben, rejoins-nous.
Des années 2000.
Assume.
Genre... alors que c'est loin d'être un joueur que j'apprécie, J.R. Smith, début de carrière, était dans tous les highlights. Le mec, il a fait le concours de dunk et pas qu'une fois. Ce bon vieux Josh Smith à Atlanta, joueur agréable sur 2K, pas vraiment sur un terrain de basket. Il était dans tous les top 10 à une période, il a fait le concours de dunk. Dwight Howard était dans les top 10, il a fait le concours de dunk. Pat Connaughton, il est pas dans tous les top 10. Il s'est retrouvé au concours, tu vois. C'est des trucs comme ça qui sont un peu gênants, en fait. Juste les mecs qui sont dans les top 10, au bout d'un moment. C'est assez simple. Enfin, il y a quand même des récidivistes. Ces mecs-là doivent être, par exemple, un mec comme Jalen Green, qui soit, et pourtant, c'est un joueur que je critique. Le mec a fait le concours de dunk. Pour moi, c'est légitime. C'est un mec qui se retrouve dans les top 10. C'est un jeune joueur en ascension. Son équipe est pas vraiment mis en avant par son équipe en termes de résultats collectifs. Le mec fait le concours de dunk. Mais je sais pas, revoir Obi Toppin plusieurs fois. Rien de personnel. Hein, mais bon, il joue pas beaucoup. Mais c'est pas un mec que tu vois de manière récurrente dans les top 10, par exemple.
C'est arrivé à trouver l'équilibre pour les joueurs entre les risques, on l'a dit, de blessure, effectivement, l'épuisement, enfin, ça fait du travail en plus. Et puis, le risque de, si ça se passe mal, d'un peu, entre guillemets, passer pour un con, mais aussi de l'autre côté, de la personal branding incroyable. Si tu claques un énorme concours de dunk, ça peut être intéressant. Ouais, Ben.
Idée débile, parce que le Super Bowl s'approche. D'ailleurs, on remercie les Bengals d'avoir perdu. Passons, ça c'était totalement personnel. Ou alors, tu fais un Super Bowl et tu mets le concours de dunk à la mi-temps du All-Star Game.
Ah, c'est une façon. Mais après, tu dis pas le week-end comme tu voulais par rapport à ce qu'on disait au produit.
Oui, c'est vrai.
Tout son week-end, là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'idée est souvent, comme toute idée venue comme ça, est probablement pourrie. Mais tu vois, tu pourrais avoir le jeu du mec, oh là là, un tel et All-Star Game est dans le match, mais il sort 5 minutes avant le deuxième quart-temps parce qu'il doit se préparer à claquer son dunk à la mi-temps et tout. Tu peux créer des storytelling un peu comme ça.
En termes de sécurité, de santé, il refuserait tout. C'est-à-dire que t'aurais pas un seul.
Moi, les gars.
C'est le mec du match qui ferait le concours.
Franchement, quand on voit les mecs jouer en août dans des parquets douteux, c'est pas pour moi. Je suis désolé, ils veulent garder la face. Je suis désolé, je crois pas à l'argument blessure. J'y crois de manière. Pour moi, c'est 10% du calcul. Le vrai calcul, c'est mon Dieu, si je me rate, je vais passer pour le dernier des incapables.
C'est ça. Une pensée aux agents NBA aussi qui doivent surveiller ça. On a fait pratiquement un quart d'heure juste sur le concours de dunk qui n'était pas le sujet standard, mais comme quoi, du sujet principal, mais comme quoi, il cristallise quelque chose, ce dunk contest au milieu du All-Star Game. C'est vrai qu'il fait partie du spectacle en général. Donc, tu as bien fait, Amine, de le lancer assez tôt, ce sujet.
Parce que sinon, je voulais juste rajouter
Vas-y, je t'en prie.
Il y a aussi le problème des votes sur les concours de dunk.
Ah oui,
parce que
vrai, ça.
Ben l'a dit vite fait. Moi, je suis totalement pour qu'on fasse voter les fans parce que le vote du jury, là, c'est à chaque fois une catastrophe. En fait. C'est incompréhensible. C'est, Enfin bref, surtout, c'était juste une parenthèse.
En 2023, tu mets des hashtags, je sais pas quoi, tu c'est possible, tu vois, c'est largement possible de, tu vois, comme ça, en plus, BTS tweetera en direct, faites gagner un mec de Golden State, c'est incroyable, enfin, c'est...
Voilà. Est-ce que tu reprochais tout à l'heure au vote potentiel des fans avec l'influence de la K-pop? Voilà, il faudrait qu'on l'ait sur le dunk contest, bravo.
Ouais, parce que, en vrai, non, c'est ça, c'est ma deuxième idée est peut-être meilleure que la première, tu vois, faire voter le dunk contest en direct par les fans, parce que je suis d'accord avec Camille, les votes ont pas de sens, et puis en plus, qui décide les mecs qu'on met, je veux dire, qui décide de ça, ça n'a aucun sens, enfin.
Oui, et puis de plus en plus, ils n'ont pas trop envie de vexer. Alors, tu as quand même des notes qui sont sur une inflation. Enfin, en fait, la limite, comme tous les dunks ont entre 48 et 50, eh ben, c'est difficile de les hiérarchiser. Ça, alors que des fois, exactement, il faudrait être un peu plus sévère pour qu'on puisse, voilà, qu'on puisse les noter. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas envie, tu n'as pas envie de te faire un ennemi en abaissant une note, sauf si tu t'appelles Dwayne Wade, auquel cas tu votes parce que tu as envie pour le plaisir. Pour rappeler la dernière polémique en question, pour ceux qui l'auraient raté, je vous invite à aller voir ça, vous verrez le problème avec les notes du dunk contest. Donc effectivement, comme je disais, je crois que c'est bon. Est-ce que vous avez encore rajouté un petit mot?
Dernier mot, parce que j'ai étudié, et pourtant je vais le défendre comme quoi c'est une fin de podcast historique. Je ne sais pas ce qu'a fait Triangle aux autres joueurs, mais pour se retrouver avec 3,5% des votes des joueurs, et c'est un récidiviste, hein, parce que j'ai checké tous les ans, il se fait détruire par les joueurs. Genre, personne ne vote pour lui du côté des joueurs. Donc, j'aimerais... Et il y a d'autres mecs un peu comme ça, mais lui, c'est le plus symptomatique. Pourquoi? J'aimerais bien interviewer des joueurs NBA qui me disent pourquoi il le sait.
12e guard à l'Est.
12e guard. Je veux dire, il a... Triangle a... Alors,
chez les joueurs.
J'ai plus la stat. Mais en gros, Fred VanVleet a 10 votes. Triangle en a 12 ou 13. Enfin, où est-ce qu'on est là? La saison de Fred VanVleet, celle de Triangle. C'est intéressant de remarquer ça.
Oui, bah ça illustre ce qu'on disait. C'est vrai qu'il y a l'affect qui joue de plus en plus. Il y a un côté grande famille dans NBA qui joue sur ce All-Star Weekend, que ce soit les histoires de draft et puis aussi sur les votes entre eux. Mais voilà, il y a plusieurs pistes. Je pense que c'est assez intéressant. On a fait une heure de podcast pour finalement dire elle n'est pas si mal, cette formule. Elle a forcément ses défauts. On vous invite bien sûr, pour ceux qui nous ont écoutés déjà, on vous remercie d'être arrivés au bout du podcast, mais on vous invite également à échanger avec nous. Qu'est-ce que vous avez peut-être, vous, comme piste d'amélioration? Est-ce que c'est pas si mal, finalement, vous aussi, ça vous va? Est-ce que vous votez? Est-ce que ça vous intéresse aussi? J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui sont plus ou moins... Parce que dans notre public, il y a peut-être des gens...
Ils sont pas intéressés. Vous n'êtes pas intéressés, les gars. Je vous connais. Vous n'êtes pas intéressés. Vous connaissez notre public. Voilà.
Ben a parlé. Vous n'êtes pas intéressés. Mais c'est gentil, du coup, d'avoir suivi le sujet. Si ça ne vous intéressait pas, merci d'avoir écouté ce podcast. Comme d'habitude, évidemment, on vous invite à nous rejoindre sur toutes les plateformes. Donc Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, celle que vous préférez, bien entendu, sur YouTube, sur Twitter. Merci à tous. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. On va laisser de côté l'All-Star Game. Je pense qu'on va retourner à notre bonne vieille saison NBA.
C'est ça. Et un big up à Tom pour la présentation la semaine dernière.
Ah, effectivement, big up à Tom. Incroyable. Et big up à Tom qui va aussi faire sa critique sur l'aspect financier de ce podcast. La belle conclusion. Merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.